Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Marc.
Également Carole Barjon, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Carole.
Bonjour Marc.
Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué à Ouest France à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors Donald Trump l'avait pourtant promis, le président américain allait régler la question ukrainienne dès son retour à la Maison-Blanche. Et pourtant, personne n'avait imaginé qu'il allait renouer si vite avec Vladimir Poutine et surtout reprendre à son compte le récit du Kremlin, à savoir que c'est l'Ukraine qui a démarré la guerre et que son président Volodymyr Zelensky n'est pas le Winston Churchill ukrainien, mais un simple dictateur assoiffé d'argent, surtout américain. On va écouter le président américain à propos de Volodymyr Zelensky, c'était ce mercredi.
Il refuse les élections, il a un mauvais score dans les vrais sondages ukrainiens. Comment pourrait-il faire un bon score alors que chaque ville se fait démolir? C'est difficile. Quelqu'un a dit « Oh, ces sondages sont bons, vous plaisantez ». Un dictateur sans élections, Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays.
Et maintenant, on va écouter Vladimir Poutine tresser des louanges à Donald Trump en le comparant aux réactions effarouchées des Européens et des Ukrainiens.
Mais je suis généralement franchement surpris par la retenue du président américain nouvellement élu, M. Trump, à l'égard de ses alliés, qui se sont comportés, pour dire les choses franchement, comme des rustres. Il reste assez intelligent dans son comportement à leur égard, mais il ne les a pas fait taire.
Alors, avant d'en venir aux conséquences possibles en Europe et en France, je vais d'abord vous demander de réagir à la fois ce qu'on vient d'entendre et ce qui est en train de se passer. Jean-Marie, beaucoup parlent de moments clés, de rupture.
La rupture sûrement, c'est évidemment, on pourrait dire c'est le grand bouleversement. Parce que c'est pratiquement un changement d'alliance. Nous ne sommes plus du côté des Occidentaux, avec un espace transatlantique, mais il y a désormais des ennemis de l'Union européenne, des ennemis déclarés, qui sont la Russie, la Chine et l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, gouvernés par Donald Trump. Donc c'est un changement absolument radical qui remet tout en cause, d'une certaine façon, y compris l'OTAN, y compris tout ce sur quoi reposait d'ailleurs la sécurité des Européens. C'est intéressant d'ailleurs de voir Poutine, intéressant, dire il ne les a pas fait taire, s'agissant de ce pays qui sont censés être les alliés des États-Unis. C'est le vocabulaire des dictateurs. Il ne faut pas chercher très loin les dictateurs, puisque Trump en décèle un en Ukraine. Non. Donc on est vraiment dans un bouleversement total qui, évidemment, interpelle en premier lieu l'Europe, pour ce qui nous concerne, parce que la question de la sécurité de l'Europe est posée en pleine lumière. Et parce qu'on est aujourd'hui face à des États-Unis qui sont guidés par... Alors on soupçonnait, on évoquait, on savait en gros qu'il y avait au moins une connivence entre Trump et Poutine. Là, c'est au-delà de la connivence, puisque d'une certaine façon, le verbatim de Trump est l'exact... ce sont les éléments de langage de la Russie poutinienne. Donc il y a évidemment de quoi s'inquiéter de ce chambardement total parce que se pose en pleine lumière la question de la sécurité de l'Europe.
Catherine,
donc notre sécurité.
Catherine, vous attendiez à tout ça. Finalement, beaucoup de gens disent « Ah, mais il fallait s'y attendre », mais peut-être pas quand même aussi vite et aussi brutalement. Quand même.
Non, je crois que c'est quand même ce qui domine, c'est la sidération. Je pense que même si on avait vu Trump 1, personne ne pouvait imaginer la violence, la cohérence de l'action de Donald Trump, parce qu'il est très puissant, à la fois en politique intérieure et en politique internationale. C'est vraiment sur les deux terrains qu'il agit sans faiblir. Je crois qu'on est devant une situation vraiment très, très grave pour l'Europe, et qu'on a, pour l'instant, je trouve, un peu du mal à stabiliser une réaction probablement compliquée entre tous les pays européens. L'absence de projet commun des pays européens dont on souffre de longue date, le marché commun n'est pas un projet, ou en tout cas n'est pas un projet suffisant et pas un projet politique, là se fait lourdement sentir et je pense que la montée en pression des extrêmes droites au sein de l'Europe va pas nous faciliter la vie. Je prendrai une toute petite distance avec ce que disait Jean-Marie à l'instant, c'est que l'Europe n'est pas forcément seule face à tout le reste du monde. C'est-à-dire que je crois que notre question, elle est plutôt de chercher des alliances possibles à l'échelle internationale, puisque celle avec Trump, je crois qu'elle est là, elle se termine. Et que le problème n'est pas de se mettre dans sous la coupe d'une nouvelle puissance, c'est d'avoir un projet que l'on puisse partager avec d'autres, probablement autour du multilatéralisme et du non-alignement, et que l'émergence des pays du Sud, ce qu'on a appelé le Sud global, qui est un tout un peu trop général, mais qui peut permettre quand même de trouver des partenariats pour essayer de reconstruire un monde qui ne soit pas qu'un monde de rapports de force, de violence et d'argent.
Carole, alors on a vu Emmanuel Macron recevoir un petit peu en catastrophe, si j'ose dire, des leaders européens à l'Élysée. Il faut s'organiser. Mais c'est vrai que Donald Trump a pris quand même tout le monde de vitesse. Là, en inversant le narratif sur l'Ukraine, mais on peut parler des tensions sur le commerce mondial et tout ça, on a l'impression que les Européens sont pris totalement au dépourvu.
Oui, ce qui est... Comment dire ? Catherine a parlé un peu de sidération, c'est l'impression qu'on a. Moi, je suis un peu honnêtement sidérée par la sidération, parce que effectivement, on ne s'habituera jamais à la manière de Donald Trump de s'exprimer, d'être aussi brutal, etc. En revanche, sur le fond... Il l'avait dit pendant sa campagne, je vais régler le problème en 24 heures. Et on avait, alors tout le monde a rigolé, évidemment, en disant il montre les muscles, mais il l'avait dit, et on avait bien compris que derrière, ça voulait dire qu'il allait s'arranger avec la Russie. Bon, donc c'est vrai que, après tout, il n'est pas élu depuis si longtemps que les
Européens... Ça fait un mois qu'il est au pouvoir.
Bien sûr. Donc, les Européens pouvaient peut-être pas aller plus vite que la musique. En tout cas, maintenant, là, il faut y aller. Mais il faut y aller, mais comment ? Parce que le problème, c'est que le droit international, c'est très bien, nous y tenons tous, aussi bien que... droits nationaux, mais on sait très bien que pour faire respecter le droit, il faut qu'il y ait un rapport de force. Et pour le moment, les Européens sont quand même divisés sur l'envoi de troupes au sol, sur les moyens à mettre aussi dans un budget de la défense. Il faut d'ailleurs au passage reconnaître à Emmanuel Macron c'est en 2017 qu'il avait dit, lors de sa campagne présidentielle, qu'il fallait absolument voir un peu loin et que le désengagement des États-Unis était inéluctable. D'ailleurs, on avait bien vu déjà que ça avait commencé un peu avec Obama. En tout cas en Syrie, et qu'il fallait se préparer à ça. Donc ça, il avait bien vu la chose. Mais ensuite, il a des partenaires qui ne sont pas tous d'accord. Et c'est tout notre problème en Europe. Et c'est vrai que c'est très grave, parce qu'il s'agit de notre sécurité. Donc il faut espérer que les points de vue se rapprochent très vite.
Stéphane, ce qui est frappant quand même, c'est le sort qui est réservé en 2-3 jours à Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire qu'il est passé de la personne qui était célébrée au Congrès américain au paria, à savoir un dictateur assoiffé d'argent, et c'est lui qui a déclenché la guerre. C'est-à-dire que vraiment Donald Trump a décidé qu'il allait exécuter publiquement Volodymyr Zelensky.
Alors c'est ce qu'il a fait en reprenant le narratif de Moscou, en fait, en reprenant tout le récit qu'a construit Vladimir Poutine. Alors après, il y a trois possibilités. Soit Donald Trump est aux mains des Russes, il a été acheté, etc. Enfin, vraiment, on peut légitimement se poser la question.
On s'était posé la question pendant
ce temps. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se la reposer. Soit il croit vraiment aux âneries qu'il raconte, ce qui est possible aussi. Soit il est en train de chercher à négocier quelque chose, ou les trois. Alors, dans la négociation possible, de la part de Donald Trump, il y a deux choses qui peuvent être dans son intérêt et qui peuvent expliquer l'attitude qu'il a aujourd'hui. Un, il n'a pas caché, il a toujours dit qu'il voulait que les Européens payent pour leur propre défense et que ce qu'il est en train de faire est une façon de mettre une pression maximale sur les pays de l'OTAN et les pays européens notamment pour leur dire bon bah ça y est maintenant si vous voulez vous défendre si vous voulez une protection
financez-vous vous-même
il l'avait déjà dit etc mais c'est peut-être une façon de refaire passer le message et de nous mettre tous au pied du mur dans une situation très concrète hein, on n'a plus le choix. Mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être aussi la recherche d'un renversement d'alliance, en fait, un grand bouleversement du monde qui ferait qu'ils cherchent à s'attirer les grâces de la Russie pour éloigner la Russie des Chinois, pour éloigner la Russie des Iraniens et pour servir ses intérêts.
Cela dit, moi, ce qui me frappe le plus et qui me choque le plus, c'est l'appui accordé aux extrêmes droites. Que quand même Elon Musk fasse l'éloge approuvé par Trump de l'AFD, c'est à croire que ces gens-là ne savent pas qu'il y a eu des soldats américains qui ont débarqué en Normandie. Mais contre qui étaient-ils, les Américains qui débarquaient en Normandie? Ils ont oublié cela. Ils ne savent même pas.
Aussi la rencontre entre le vice-président Pence et la chef de l'AFD.
Absolument. Ils ne savent même pas cela. Or, l'AFD est un parti ouvertement néo-nazi. Enfin, dans la Constitution allemande, il est permis de les appeler comme cela. Donc c'est quand même proprement hallucinant. Et ça rejoint l'autre front qui était ouvert dans ce domaine, qui était le financement accordé par Poutine à tout ce qui est l'extrême droite en Europe. Donc il y a une espèce de conjonction entre les idéologues de Washington, car il ne faut pas se tromper, ce sont des idéologues d'extrême droite qui ont le pouvoir aujourd'hui à Washington, une poignée, hein, puisque ce sont une poignée d'oligarques autour de... Donald Trump, Poutine n'ayant plus le monopole des oligarques. Hein. Trump est aujourd'hui entouré d'oligarques. Et ce sont des gens animés par une idéologie d'extrême droite. Et qui d'ailleurs, dont certains d'entre eux viennent d'Afrique du Sud, donc ils sont d'une certaine façon, de ce point de vue-là, à bonne école. Et ça, c'est, voilà, on est pris en étau entre le soutien américain hallucinant à des extrémistes que pourtant les États-Unis avaient combattus, et le financement par la Russie, voire M. Orban, de ces extrêmes droites en Europe. Et ce que je me disais aussi, c'est quand même un des grands paradoxes de l'histoire, de voir un président, entre guillemets, républicain, on ne voit pas ce qu'il a encore de républicain dans cette façon de faire, qui défait le grand héritage de Ronald Reagan. Ronald Reagan a mis à terre l'Union soviétique, avec sa fameuse guerre des étoiles, il a contribué à ce que l'Union soviétique mette un genou à terre. Événement qualifié de plus grande catastrophe stratégique par Vladimir Poutine. Et donc voilà que Trump permet à Vladimir Poutine d'effacer ou d'espérer pouvoir effacer cette grande catastrophe stratégique et de reconstituer autour de la Russie, non plus de l'Union soviétique, un glacis qui se traduisait pour les pays européens qui étaient dans ce glacis par une dictature et par un joug épouvantable. Donc c'est quand même un des grands paradoxes de l'histoire et que personne au sein du Parti républicain ne réagisse, ça me sidère pour le coup beaucoup plus que tout le reste parce qu'il devrait y avoir une levée de boucliers dans les cercles républicains. Ça n'est absolument pas le cas. Au contraire, ils pensent tous à leur réélection dans 2 ans et ils pensent tous qu'il faut éviter de fâcher Trump pour éviter qu'il mette un candidat opposé à ses députés. Donc c'est ça qui est absolument terrifiant dans ce qui se passe.
Juste une petite précision. Ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que le Donald Trump reprend le narratif des Russes. Mais il y a un point qu'il n'a pas repris dans le narratif russe. Il n'a pas traité les Ukrainiens de nazis, en fait. Ce qu'a abondamment fait Poutine au début de la guerre. Oui. Pourquoi ? Ben parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, en tout cas le nouveau pouvoir américain, soutient ouvertement les néo-nazis en Europe.
Bien sûr.
On accuse les Russes d'ingérence, de nous mener une guerre hybride, d'essayer de faire tomber les démocraties, d'ingérence dans les affaires, dans les élections, etc. Les Américains, eux, ils le font ouvertement. Je veux dire, ils soutiennent ouvertement l'AFD.
Bien sûr.
Les Allemands vont voter pour les législatives, une élection particulièrement importante pour l'avenir de l'Europe,
en quelques jours,
dimanche prochain. Ouais. Et vous avez Elon Musk, Donald Trump, qui soutiennent ouvertement le parti AFD, qui est un parti, comme l'a dit Jean-Marie, néo-nazi. Voilà.
Ça pose quand même question. Hein. Juste avant que Catherine, juste à ce propos, hein, le président français a reçu, donc je l'ai dit, des dirigeants européens. Il a aussi reçu aujourd'hui à l'Élysée les principaux chefs des partis politiques. Pas pour parler de dissolution ou d'autres choses, mais pour parler d'Ukraine. Et ils en sont tous sortis, visiblement, vu leur déclaration, assez secoués par ce qu'ils ont entendu. Catherine, vous vouliez réagir.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec ce que soulignait Jean-Marie tout à l'heure.
C'est pas toujours le cas.
C'est souvent le cas. Je suis souvent d'accord avec Jean-Marie, même si par coquetterie,
allez-y.
J'aime dire quand je ne suis pas d'accord, mais je suis souvent d'accord avec ses analyses, et en l'occurrence quand il soulignait l'ingérence des Américains en soutien avec des partis d'extrême droite en Europe, et que ça fait partie de notre difficulté, parce que ces partis sont en progression, sont en ascension. Et ce n'est pas simplement quand ils dirigent qu'ils pèsent sur la politique. Oui. C'est que quand ils sont puissants dans les partis, on le voit bien en France, l'extrême droite est puissante et cela pèse. Ça pèse dans notre gouvernement même. On a des ministres de premier plan qui relaient des idées qui sont celles portées par l'extrême droite, qui sont soutenues par le président américain, Trump, voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est en fait ce mélange qui existe entre l'idéologie et les intérêts de pays. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'Amérique qui combat les nazis, elle le fait pour une question idéologique en 39-45, et quand elle combat l'Union soviétique, elle le fait également par anticommunisme. C'est plus l'anticommunisme qui la meut que la volonté d'abattre la Russie, oui. Tandis qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en accord parce qu'ils sont en effet porteurs, tous les deux, d'une idéologie autoritaire, suprématiste, et qui n'a rien à voir avec les enjeux de démocratie et d'organisation du monde tel que nous l'avons connu depuis 1945.
Carole, juste pour revenir, parce qu'on va revenir un petit peu à la politique française, Emmanuel Macron, qui était un petit peu porté disparu ces dernières semaines, donc là, on le voit, il convoque tout le monde à l'Élysée. ça lui redonne un tout petit peu d'oxygène ou au moins de visibilité.
Oui. Maintenant, très honnêtement, l'invitation faite aux chefs de parti de venir le voir à l'Élysée et de leur faire un grand topo qu'ils ont, semble-t-il, apprécié sur la situation...
Avec le chef d'état-major.
Exactement. En Ukraine, bon, c'est très bien, ça donne l'impression qu'il informe les forces vives de la nation, mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est avec les Européens et ceux qui prennent des décisions ou non d'augmenter le budget de la défense européenne, sachant qu'il y a la Pologne qui n'est pas pour. Enfin, c'est ça le vrai sujet. Alors, bien entendu, il en profite pour reprendre la main. On sait très bien que c'est le domaine réservé du président de la République. Donc, là, il apparaît comme étant à la manœuvre. Il va aller à Washington apparemment lundi pour discuter avec Donald Trump, peut-être en tête-à-tête ou avec le Premier ministre anglais, on ne sait pas trop. Effectivement, oui, ça le remet en selle d'une certaine façon sur un sujet extrêmement grave.
Cela dit, article 1, c'est son métier. Ce qu'on attend d'un président de la République, rappelez-vous la formulation faite par De Gaulle qui n'a pas varié pour ses successeurs, le président est en charge de l'essentiel. Or là, qui peut nier ou peut contester que l'essentiel soit en jeu ? L'essentiel est en jeu, donc le président est nécessairement à la manœuvre en première ligne. Ce qui le handicape, en fait, c'est le fait qu'il est affaibli. Et il est affaibli par sa faute, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est sa sinistre dissolution qui l'a affaibli, qui a affaibli la fonction même présidentielle. Au point qu'un certain nombre de politiques et d'orateurs passent leur journée à réclamer, à suggérer qu'il ferait mieux de démissionner, etc. Donc il est dans son job. Le fait qu'il informe les partis, c'est extrêmement important et extrêmement utile, je pense. Moi, je ne serais pas aussi négatif que Carole sur l'état des Européens. Les Européens sont d'accord sur les principes, c'est déjà considérable. Je mets à part, évidemment, la Hongrie du Viktor Orban. Mais ils sont d'accord sur les principes, c'est-à-dire sur le maintien, la réaffirmation d'un soutien à l'Ukraine. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien sur l'Europe sans les Européens. Bon, donc c'est ça qui les soude. Attendez. Et par ailleurs, ils peuvent être en désaccord sur des questions à venir, notamment sur faut-il des soldats, s'il y a une ligne de démarcation, est-ce qu'il faut, etc. Tout ça, c'est le jeu normal des choses.
Non, on n'en aurait pas assez à envoyer.
Oui, petite parenthèse, ça interpellera la France en premier. Parce que s'il n'y a plus de couverture nucléaire américaine, il ne peut pas y avoir de couverture nucléaire britannique, parce que les Britanniques sont dans la main des Américains pour tout ce qui est de l'usage de leurs armes. Rappelons-nous l'événement libyen. Lorsque la France et la Grande-Bretagne interviennent en Libye pour... éliminer le colonel Kadhafi, le président Sarkozy décide seul de l'envoi de bombardiers français. Le premier ministre britannique, Cameron, est obligé de demander un double feu vert de Washington. Donc, c'est vraiment... Donc on va être interpellé sur quel usage fait-on de cette force nucléaire. Est-ce qu'on l'étend à la protection des autres Européens? Ça va être la grande question à venir, ce sera celle-là. Et pour le reste, ben, chacun est face à ses responsabilités. Et je ne pense pas qu'on soit dans une phase où cette prise de conscience échappe aux autres dirigeants européens. Chacun sait bien, je pense, ce qui est en jeu aujourd'hui et ce qu'il faudra faire, et donc certainement pas réagir en ordre trop dispersé.
Ça ira peut-être mieux s'il y a un nouveau chancelier allemand.
Oui, bien sûr, qui est lui beaucoup plus ferme dans le soutien.
Mais l'enjeu n'est quand même pas que un problème. Enfin, je veux dire, la question d'Ukraine, elle est urgente et elle est pressante, mais l'enjeu, il est au-delà de cela. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas que un problème de sécurité. On a un problème, de positionnement par rapport à la première puissance mondiale qui est en train de tout casser à l'échelle internationale. Donc c'est sur ça que c'est assez fluctuant,
les positions,
angoissant, fluctuant, et sachant qu'ils sont encore une fois, comme vous l'avez dit Jean-Marie tout à l'heure, ils sont actifs sur le sol français, ce que vous avez dit également, c'est-à-dire ils interviennent directement.
Alors, on va revenir sur le sol français pour le coup. On va revenir à François Bayrou. Il a survécu cette semaine à une 6e motion de censure. Mais il est surtout préoccupé par le scandale de Bétarame. Notre-Dame de Bétarame, c'est un lycée-collège catholique dans les Pyrénées, dans sa région, où des faits de violences physiques et sexuelles ont été révélés tout d'abord à la fin des années 90. Alors, il y a une enquête qui est ouverte. Mais c'est aussi une affaire politique suite aux révélations de nos confrères de Mediapart, selon lesquels le Premier ministre, qui a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cette école où son épouse a aussi enseigné, était au courant lorsqu'il était ministre de l'Éducation entre 1993 et 1997. La gauche crie au scandale et demande sa démission. On va écouter François Bayrou cette semaine à l'Assemblée nationale et ensuite la réaction des socialistes. Si elle arrive.
J'affirme, en tout cas que quand j'étais au gouvernement, il ne pouvait pas y avoir un signalement aussi important sans que le ministre de l'Éducation nationale ne soit averti. Qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal.
Il est temps que M. Bayrou aussi démissionne sur l'affaire de Bétarame. Je pense que là, on a atteint le seuil des mensonges et des contre-vérités qu'il pouvait nous apporter comme réponse.
Stéphane ?
Moi, je crois qu'en fait, dans cette histoire, tout vient du fait que François Bayrou, dans ses toutes premières explications, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, était complètement à côté de la plaque. Il s'est
planté. Je n'ai rien à cacher. C'est ce qu'il a
non, fait. En fait, il dit « je n'étais au courant de rien, d'aucune violence et a fortiori aucune violence sexuelle ». En fait, dans cette affaire, si vous voulez, évidemment qu'il était au courant de l'histoire de 96, parce que 96 avait défrayé la chronique. Il y avait les journaux du 20h qui titraient là-dessus, etc., en rappelant que François Bayrou avait ses enfants scolarisés à Bétarame. Il était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Je pense que François Bayrou, dans cette histoire, il s'y est mal pris pour expliquer qu'en fait, en 96, c'est une histoire de violence physique à Bétarame.
Une paire de gifles,
et puis un élève qui est puni, il se retrouve dehors en caleçon, il fait zéro sur le perron. Voilà. À l'époque, ces choses-là ne sont pas passées du tout inaperçues. Il est bien évidemment qu'il était au courant. Mais il n'y avait pas de caractère sexuel dans cette histoire-là. Il y a eu une inspection de l'établissement, etc. Aujourd'hui, l'inspecteur d'académie qui a procédé à cette inspection dit je m'y suis mal pris, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai pas fait mon boulot. Mais il dit pas, François Bayrou m'a expressément demandé d'étouffer l'affaire. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'une affaire qui avait 35 ans. À cette époque-là, si vous voulez, d'abord, Bétarame, il faut quand même avoir en tête que c'était un établissement catholique hyper rigoriste qui était connu pour ça. C'était quasiment pas une école, c'était quasiment une maison de correction. Et les familles qui mettaient leurs enfants dans cet établissement s'attendaient à ce qu'il y ait un enseignement hyper rigoriste. C'était une époque aussi où aucun des scandales qui ont défrayé la chronique ces dernières années n'avait vu le jour. Je veux dire, il n'y avait pas de MeToo. Les scandales dans l'église, les scandales dans le sport, dans le cinéma, l'éducation nationale, etc. On n'était pas du tout au même niveau d'information et de prise de conscience. MeToo n'avait pas eu lieu. Voilà, je veux dire, depuis, on a eu l'affaire Comment Abler Pierre et compagnie. Enfin, les choses, on est très, très conscient et très éveillé de tout ça.
Mais pas François Bayrou.
Non, mais à l'époque, si vous voulez, je veux dire, les victimes n'étaient pas entendues, elles n'étaient pas écoutées. En tout cas, sur l'aspect viol et caractère sexuel des affaires. Et elle ne parlait pas, parce qu'il y avait une espèce d'omerta qui était liée à la honte, etc. Donc, quand il dit « j'étais pas au courant », je pense que moi, en 96, il est saisi pour des affaires de violence. Il y avait déjà l'effet pas de vague dans l'éducation nationale qui fait que ça a été maltraité, mais le truc a été traité quand même. Et quand il dit qu'il était pas au courant des affaires de violence sexuelle, je pense que c'est vrai. 98, là, il se défausse encore une fois complètement maladroitement en disant « c'était pas moi, j'étais plus ministre, etc. » et tout le monde savait. Mais 98, il y a la mise en examen d'un prêtre de l'établissement pour des faits de violence sexuelle. Donc il peut pas dire que rien n'a été fait, puisque ça a été traité par la justice en 98.
Pardon.
Et ça a été traité par la justice et l'affaire s'arrête parce que le prêtre en question meurt en 2000.
Se suicide. Non. Avant le suicide.
Il disparaît. Donc du coup, en fait, si vous voulez,
voilà. Non, pardon. En 1999, le prêtre est remis en liberté et le parquet ne fait pas appel. C'est la raison pour laquelle François Bayrou, l'autre jour à l'Assemblée nationale, a mis en cause Elisabeth Guigou.
Et il est rattrapé, le prêtre est rattrapé par une deuxième mise en examen,
et ensuite,
il met fin à ses jours, et l'affaire
voilà,
s'arrête.
Donc, effectivement, pourquoi le parquet ne fait pas appel? Alors, comme ça vient d'être dit, on était probablement moins sensibles, même...
C'est pas la même époque.
98-99, à toutes ces affaires-là. Mais il n'a pas tort. D'abord, il n'était plus ministre de l'Éducation nationale, il faut quand même le souligner. Bon. Et il n'a pas tout à fait tort de dire que le parquet n'a pas fait appel. Donc,
c'est vrai que la préoccupation de la protection de l'enfance, hélas, c'est quelque chose de très récent en France. Vraiment très récent.
Oui.
Et ça se voit et ça se lit tous les jours. Plus s'agissant des catholiques, on est quand même post les énormes vagues qui ont englouti un certain nombre de clergés en Irlande, au Québec... en France, aux États-Unis, même en Australie, sur des pratiques sexuelles, d'abus sexuels sur des enfants, etc., qui ont pris des proportions hallucinantes. Donc il y a aussi, pour l'Église catholique, de quoi, je pense, se réinterroger sur elle-même et sur la façon dont elle se comporte. Là, il y a juste aujourd'hui, je crois, une déclaration de l'Épiscopat. Je dirais, ils viennent un peu tard. Donc, je pense qu'il y a aussi tout cela qui est mêlé. En dehors du fait
que... Mais il y a quand même un fait politique.
Il y a un problème politique qui n'a pas disparu. Parce que maintenant, ça a été évidemment traité par les politiques et que, évidemment, Bayrou est ciblé, il faut qu'il démissionne, ainsi de suite. Ça, j'allais dire,
enfin,
on retombe dans le classique
le plus triste.
Oui.
Parce que c'était la chasse au Bayrou, tout seul.
Oui.
Là, maintenant, on entend un peu moins parler de chasse au Guigou.
Le problème, c'est qu'il a raté le coche à la fin des années 90, mais encore une fois, c'est pas la même époque. Et ce qui est préjudiciable dans cette affaire, enfin, ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que va retenir l'opinion publique dans le brouhaha médiatique qui est celui d'aujourd'hui, c'est que François Bayrou aurait sciemment ou volontairement occulté une affaire de pédophilie de très grande échelle dans un établissement à côté de Pau, près de chez lui. C'est pas ça qui s'est passé. La multiplication des plaintes, c'est aujourd'hui qu'elle apparaît. Parce que la parole s'est libérée.
Il y a une instrumentalisation politique.
Et on se rend compte que l'affaire
la gauche,
des années 50. Au début des années 2000, je ne sais plus quelle est la période, mais à l'époque, dans les années 90, je pense que tout le monde est resté focalisé sur le cas d'un prêtre qui a été mis en examen deux fois et qui a mis fin à ses jours, et on arrête. Et ce qui est vrai, c'est que personne n'a cherché à aller plus loin, à en savoir plus et à enquêter sérieusement sur le dossier.
Catherine.
Parce que c'est pas la même époque.
Ouais. Catherine.
Moi, ce qui me semble, c'est qu'on aurait attendu de François Bayrou une prise de position qui prenne un peu de hauteur. C'est-à-dire que précisément, qu'il expose C'est fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la même époque. Qu'il rappelle le travail qui a été fait par la commission la commission Sauvé, qui a quand même révélé l'ampleur des crimes sexuels au sein de l'Église. C'est 330 000 enfants qui ont été reconnus comme victimes de crimes sexuels par des prêtres ou des laïcs. Donc, et qu'ils prennent acte du changement d'époque. Ce que je trouve, c'est que là, on a l'impression qu'il n'en fait qu'une affaire personnelle et individuelle dans laquelle il cherche à se disculper. Moi, personnellement, je pense qu'il était quand même maire de Pau et député, et que quand les choses sont sorties, il pouvait agir.
Il n'était pas maire à l'époque.
Il était président du Conseil général.
C'est pas beaucoup moins.
Non, c'est plus près, encore une fois.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'à l'époque, d'une certaine manière, il était pris dans... Le moment dans lequel on ne s'intéressait pas, on ne regardait pas, et absolument, particulièrement au sein de l'Église. Et il est quelqu'un de, on le sait, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui est proche de l'Église. Et donc finalement, il n'avait pas envie de savoir. Je crois qu'il n'avait pas envie de savoir. Mais on peut revenir sur ça, on peut parler aux Français et leur dire que des choses se sont passées. Là, ce qu'on a l'impression, c'est qu'ils cherchent simplement à se protéger, et ça, ce n'est pas possible.
Parce que certains ont demandé sa démission.
Mais non, il a commencé par dire « je ne savais rien »,
etc. Ah oui, il a été tout à fait maladroit au départ.
Non, mais ce n'est pas simplement maladroit, c'est qu'il commence par chercher à se sortir, lui, du guépier. Alors qu'en fait, je veux dire, il était dans une situation dont il n'était pas le seul. Enfin, je veux dire, ça a été quelque chose de massif. Ces atteintes aux enfants s'est produit à beaucoup, beaucoup d'endroits, et on ne l'a pas vu, et lui non plus ne l'a pas vu.
S'agissant de l'époque, c'était l'époque où un évêque qui était informé des agissements d'un des prêtres de son diocèse le déplaçait de quelques kilomètres.
Exactement. Hein,
le point final.
Oui. Exactement.
Témoin le long parcours de prédateur de l'abbé Pierre.
Bien sûr.
Encensé par tout le monde, reconnu par tout le monde, alors même que sous l'œil même de ces évêques, il y avait de quoi faire.
Bah oui.
On va devoir s'arrêter là parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux. Bonjour Véronique Reissoult, directrice de Backbone Consulting. Alors on a commencé cette émission par Donald Trump, ça ne pouvait pas vous échapper. Il aime bien les réalités alternatives.
C'est ça.
Et on va parler de ce sondage qu'il a évoqué pour justifier son discours sur Volodymyr Zelensky, à savoir que Zelensky n'a que 4% de soutien en Ukraine.
Le pauvre Zelensky, c'est pas facile. Hein.
Alors en ce moment, donc, c'est sûr.
Donc c'était l'argument qu'il avait mis en avant. Alors... voilà, on est dans ce monde formidable des réalités alternatives, des fake news. Enfin bref, nous en parlons chaque semaine. Pas si simple que ça de démêler le vrai du faux. Mais quand il y a un chiffre, là, normalement, c'est assez simple pour débunker. Donc c'est l'argument principal qui a été repris aux États-Unis. Alors, je vous ai mis des messages plutôt en français, mais en gros, aux États-Unis, ça a été très repris. Donc le fameux taux d'approbation de 4% que son pays... Enfin, le reste, ce sont des insultes. Là, on peut rien dire. Mais 4%, c'est un chiffre factuel. Alors, vous voyez que c'est le sujet sur lequel les uns et les autres ont essayé de s'appuyer en disant, mais non, c'est pas 4%, c'est 52% des Ukrainiens qui ont confiance en M. Zelensky. Et il y a des instituts de sondage qui ont testé. Il y a des données locales. Donc, en gros, on voit bien que c'est l'argument principal que les uns et les autres ont repris en rappelant au passage qu'il faisait le jeu de la propagande russe, parce que ce 4% est le chiffre qui est utilisé en Russie. Donc voilà. Mais donc on se dit, c'est concret. Mais le problème des chiffres, c'est que oui, c'est concret, mais il faut garder le même. Et le chiffre qui a été pris après, alors d'autres disaient, c'est 57%. Et donc, à partir du moment où il y a un doute sur les chiffres, évidemment, vous doutez bien. Donc c'est ça, c'était l'AFP qui a mis en avant le 57%. Mais quand vous commencez à avoir un doute sur les chiffres, vous vous doutez que les complotistes ou les uns et les autres qui trouvaient que ce 4% était fort crédible se sont jetés dessus. Alors on va dire que la bonne nouvelle, c'est que quand même on a compris que 4%, c'était sans doute très loin de la réalité, vu l'écart. Mais en même temps, la complexité de débunker les fake news, même avec des chiffres factuels, c'est pas si simple que ça. Et donc, il faut le faire avec attention. La bonne nouvelle, c'est que c'était très, très éloigné. Mais quand je regardais les messages aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui remettaient, du coup, tout en question.
Et puis, ils vont peut-être retenir juste le fait que Volodymyr Zelensky est très impopulaire, peu importe le chiffre.
Voilà, en disant, bon, 52, 56, c'est bien la preuve qu'il raconte n'importe quoi en face. Voilà, et là, voilà.
Très bien. Alors, on va revenir les pieds sur terre.
Ouais.
Ce week-end démarre le Salon international de l'agriculture. C'est toujours un événement pour les agriculteurs, mais aussi pour les hommes politiques qui se font un malin plaisir de faire des visites marathon. Alors, il y a eu évidemment la grande époque de Jacques Chirac, mais tous les politiciens essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est aussi le moment peut-être de faire un point sur la question des agriculteurs qu'on a peut-être un peu oublié dans le brouhaha, mais qui est encore très très présente, y compris au Parlement.
Exactement, qui eux n'ont pas oublié les politiques. Alors je vous ai fait un nuage d'émoji, oui. Voilà. Et comme vous parlez couramment l'émoji maintenant, je n'ai même pas la peine de vous le résumer. Donc rien que cette semaine, mais c'était assez révélateur. Bah, vous voyez qu'il y a des symboles positifs. Donc on les applaudit et on applaudit finalement les agriculteurs pour leur travail. Il y a plein de cœurs de toutes les couleurs, des bleus, des roses, des gris. Il y a plein de positifs en soi. Il y a le symbole du dollar parce que le sujet du pouvoir d'achat continue à préoccuper les uns et les autres. Et en particulier, il y a eu beaucoup de vidéos partagées ces derniers temps, qui sont les vidéos des agriculteurs qui racontent combien de temps ils travaillent, ce qu'ils gagnent et qui décortiquent leurs revenus. Vous avez aussi avant de voir ça, juste je voulais vous décrire. Hop, bon bah tant pis. voilà, un truc qui vous explique les normes. Un autre émoji qui est très repris, qui est la planète, et on va y revenir. Et l'émoji qui n'est pas content, c'est pas sur les agriculteurs, c'est justement sur les normes. Et donc, vous l'avez compris, les agriculteurs, il y a eu plein de sondages l'année dernière, il va y en avoir plein cette année, qui montrent que les Français sont toujours des agriculteurs. Et les agriculteurs, ils ont une façon de partager leur vie au quotidien qui est assez intéressante. Ils ne sont pas sur X, ils sont plutôt sur YouTube ou sur Facebook et ils partagent des témoignages, leur vie quotidienne. Et non seulement ils partagent, mais c'est très suivi. Donc la fameuse vidéo, le point qu'on montrait, voilà, 7,2 millions de vues pour cette vidéo, qui est une vidéo où on voit une agricultrice en train de labourer son champ avec une charrue et comment elle fait pour manœuvrer. C'est une agricultrice qui a une chaîne YouTube qui est pas mal suivie, parce qu'il y a 57 000 personnes qui la suivent. Et globalement, c'est quand même le témoignage d'une réalité, d'un intérêt des Français pour la vie des agriculteurs qu'ils soutiennent et qu'ils encouragent. Mais on est passé vite, mais il y avait une petite planète. La petite planète, c'est le petit coin un peu difficile quand même dans la relation que l'opinion publique a avec les agriculteurs. Alors, on va prendre cet extrait de Monsieur Rousseau qui explique avant la loi d'orientation agricole, quand vous détruisiez 2 mètres de haies, c'était du pénal. L'écologie politique qui oppose agriculture et environnement, ça n'est pas notre modèle. En gros, il essaye de rentrer par la démonstration que les règles environnementales sont absurdes. Ça n'est pas forcément ce qui passe dans l'opinion publique. En tout cas, autant, quels que soient les bords politiques, les gens veulent soutenir les agriculteurs. Ils sont plutôt populaires. Mais dès qu'on touche au sujet de l'environnement, c'est un peu plus compliqué. À l'image de ce vote au Sénat, où on voit que, ben oui, il y a des débats sur la levée des contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, qui est dans le texte qui a réintroduit les néocotinoïdes, et qui, en gros, montre que ça n'est pas si simple dans l'esprit de l'opinion publique, au point où les uns et les autres rappellent qu'un amendement a donc réintroduit aussi l'acétamipride, qui est important pour les cultures de noisettes en particulier. Et c'est un insecticide qui fait partie de la famille des néocotinoïdes. Et globalement, ça devient du coup extrêmement politique, parce que dans l'opinion publique, ils soutiennent les agriculteurs, ils veulent protéger l'environnement. Donc pour eux, c'est aux politiques de faire cet arbitrage. Et donc on voit bien qu'en fait, le sujet va continuer à monter, mais c'est vraiment un sujet politique dans la grande majorité de l'opinion, en disant, voilà, il faut soutenir les agriculteurs et il faut faire des arbitrages intéressants pour eux.
Un petit commentaire rapide sur les agriculteurs ou les lois qui vont revenir. Vous pensez qu'ils se sont débarrassés de ce problème, le gouvernement ?
L'univers agricole change. Il faut regarder les élections en chambre d'agriculture et l'implication d'un certain nombre de mouvements qui sont proches du Rassemblement national maintenant.
Mais en particulier, il y a un gros débat sur les gros. Il y a deux types d'agriculteurs. Ceux qui sont toujours suivis, ce sont les petits, et les gros agriculteurs et les céréaliers sont moins populaires.
Ben, nous allons voir. Merci beaucoup. On va devoir rendre l'antenne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi sur France 24 et à la semaine prochaine. Merci.